Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Product Café. Content de vous retrouver aujourd'hui en studio avec Victor et Anna. Comment ça va, Victor ?
Ça va très bien. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui, ce matin.
Ah, et comment ça va, Anna ?
Ça va très bien. Très content d'être aussi avec vous ce matin. Et aussi très heureuse d'avoir notre invité. Ça me permet de retrouver un peu mon amour pour BPI France. Et aussi, voilà, quelqu'un que j'ai connu donc via mon ancienne expérience et tous les deux fans de Notion. C'était comme ça le début de notre rencontre professionnelle. Donc Thomas, je te laisse te présenter à l'audience.
Salut à tous. Merci pour l'invitation et content de te retrouver aussi, Anna. Moi, je suis Head of Product chez BPI France. Je suis arrivé il y a 4 ans tout au long là-bas. À l'époque, on ne parlait pas forcément encore beaucoup de produits. Aujourd'hui, on est plus de 300 au sein de notre Digital Factory. On a 25 équipes tech, produit design qui travaillent ensemble pour incarner, je crois, une vraie belle mission, puisque en pays France, hein, on finance et on accompagne les entrepreneurs à chaque étape clé de la vie de l'entreprise. Ça va de la création jusqu'à la conquête de l'international. Et pour ça, on a quelques beaux chiffres dans notre plan stratégique à 4 ans. Par exemple, on veut doubler le nombre d'entrepreneurs, on veut doubler le nombre d'exportateurs. On va mettre 35 milliards dans l'industrie, 35 supplémentaires dans la décarbonation de l'économie. Bref, voilà, en résumé, on est la banque des entrepreneurs.
Le premier VC de France, même devant Pôle emploi, du coup.
D'ailleurs, je me demande si c'est même pas le premier VC d'Europe en termes de volume d'investissement.
Si, je crois, ouais.
En volume de private equity, ouais.
Eh ben écoute, on est très content de t'avoir aujourd'hui. C'est quoi un peu les sujets du moment pour toi ? Qu'est-ce qui t'occupe l'esprit ?
Pas mal de sujets. Je trouve qu'il y a une vague d'innovation qui touche évidemment tout le monde et avec cette exigence qu'il y a, cette responsabilisation qu'il y a autour de tous les product people pour voir comment on contribue vraiment à la performance de l'entreprise et comment on fait le lien avec ces piliers stratégiques que je citais tout à l'heure. Et je crois que nous, il y a vraiment une vague d'innovation autour de trois piliers, la plateformisation, l'apaisation de nos socles techniques, comment on s'intègre et avec nos systèmes et avec ceux de fintech partenaires. Il y a l'open finance. Voilà, je sais pas si ça parle à tout le monde, mais nous, on n'est pas une banque de flux. On ne propose pas de compte courant. Par contre, on peut proposer des expériences hyper intéressantes. Ça va de l'analyse de risque, la gestion de la fraude jusqu'à des expériences de pilotage pour aider nos entrepreneurs à mieux piloter leur croissance si on récupère, par exemple, leurs données comptables et leurs données bancaires. Et puis, bien sûr, il y a l'IA générative qui peut permettre d'économiser des coûts et des délais de traitement sur des tâches à faible valeur ajoutée. Donc, si tu fais la somme de tout ça, je crois qu'il y a un terrain très, très fertile pour nos product managers.
J'ai l'impression à t'entendre qu'on est un peu sur un stade de maturité qui avance au sens où voilà, BPI, c'est comme une grosse structure. Et l'enjeu, c'est pas tant de savoir quels sont les principes de product management à appliquer, parce que ça, je pense que la théorie est plutôt assez claire en la matière. L'enjeu, ça va plutôt être comment je transforme la boîte, comment je transforme l'organisation pour les acculturer, puis adapter un peu ces éléments théoriques à un contexte donné. Et ça me fait penser aussi à une grosse actu du coup qui est le bouquin de Marty Kagan, la Transform, qui vient de sortir. Je sais pas si tu l'as lu, Thomas. Je sais pas ce que t'en penses. Je trouve qu'il arrive à un bon moment, un petit peu à un bon timing. Mais voilà, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que pour toi ça semble un truc opportun ou est-ce que c'est un autre bouquin de Kagan qui est un petit peu voilà un peu comme il sait faire, c'est-à-dire il dit un peu les platitudes, mais comme il est très connu, tout le monde l'achète.
Écoute, je l'ai pas encore lu. J'avais lu évidemment les deux précédents, Inspired et Empower, qui je pense sont une très bonne école pour s'émêler au monde du produit. Après, moi perso, voilà, aujourd'hui, je pense que effectivement, faut s'y libérer un peu de la théorie des four big risks du product management ou choses comme ça. Quand tu par exemple, j'entends souvent le mot il faut dérisquer un projet, et le premier risque que tu vois remonter à la surface, c'est attention dépendance technique ou de projet. Voilà, je trouve que quand tu te mets dans ce rapport où il y a un product manager qui va aller qui va faire sa recherche, son apprentissage en continu, en fait chaque jour t'essayes de répondre à des questions toujours plus précises, et je crois c'est vraiment ce skills là en fait qu'il faut développer chez nos PM. Donc, on peut faire la somme de tous les bouquins. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à prendre en ayant des habitudes de discovery en continu, en créant les conditions pour que les équipes soient responsabilisées, qu'elles soient autonomes et alignées, en augmentant progressivement son niveau de confiance, Maintenant, pour l'appliquer concrètement dans le quotidien, je crois qu'il faut surtout développer le mindset plus que qu'essayer d'appliquer le framework, quoi.
Et toi donc, tu vois, tu dis un petit peu que en fait, il y a pas de, on peut pas prendre d'avance, on peut pas court-circuiter le trajet. En fait, à un moment, c'est un truc qu'il faut vivre et tu peux pas l'expérimenter ou monter en compétence alors avec. Enfin, est-ce que tu penses quand même qu'il y a des manières de, enfin, me dis, tu vois, peut-être que Transform, c'est une manière un petit peu d'aller de faire moins de bêtises parce qu'en fait, tu t'apprends les horaires des autres et donc tu vas un petit peu plus vite. Sur ce que tu dis, je suis assez d'accord. Il y a beaucoup d'incompressibles. Quelque chose que tu peux vivre, tu la vis par toi-même, mais est-ce que du coup tu peux pas quand même un petit peu accélérer?
Je pense que les points de repère sont toujours très justes. Tu vois, on peut citer Discovery Discipline aussi dans le monde français. Il y a un certain nombre de points de repère qui font que à un moment donné, les équipes se sont mises à faire des arbres d'opportunités, à se poser des questions sur est-ce que la décision qu'on est en train de prendre et ce sur quoi on misait a vraiment de la valeur pour le client, a vraiment de la valeur pour le business, est faisable techniquement, est utilisable. Voilà, je pense qu'évidemment il y a des fondamentaux là-dedans. La question c'est derrière comment tu définis les bons standards à échelle, parce que passer de la vision à la stratégie, à l'exécution au lancement, surtout à échelle, par exemple quand il y a 25 équipes, c'est évidemment pas aussi simple que ça.
Mais moi, la question que je me pose, Victor, c'est est-ce que tu penses que ça t'aurait aidé, ce bouquin, quand t'étais chez L'Oréal? Plus globalement, c'est en fait, je sais pas qui est la cible, en fait, vraiment, de ce dernier bouquin. Parce qu'on est quand même sur, j'ai l'impression, l'ambition de...
Ouais. Normalement, lui, il dit que... Donc, pour avoir discuté avec lui sur le sujet récemment, il dit que il a d'abord écrit ce bouquin pour les leaders des entreprises, donc notamment des CEO, parce qu'en fait, la transformation, elle doit avoir un sponsor au C-level. Et en général, c'est quand même quelqu'un qui, dans des entreprises d'une certaine taille, doit valider un certain niveau d'investissement. Et en général, le CEO doit être on board. Si le CEO n'est pas on board, ça marche pas. Donc lui, il dit d'abord, j'écris ça pour cette strate de l'entreprise, donc le C-suite. Et bien évidemment, tous les gens qui vont contribuer à cet effort de transformation, les product leaders, les personnes dans les équipes, etc., etc. Donc c'est la première fois qu'il écrit un bouquin qui est d'abord destiné aux dirigeants de l'entreprise.
Ouais, bref. Après, tu vois, déjà parler de C-suite, dans une boîte comme L'Oréal, ça a pas trop, enfin, tu vois, on va parler d'un CEO, CFO, tout ça, mais en fait, ça reste un vocabulaire très Silicon Valley et très Big Tech, quand même, pour moi. Donc je sais pas vraiment. En fait, je vais répondre
en sachant que les boîtes, la majorité des boîtes dont il parle, c'est des boîtes non, donc c'est vraiment non seulement des boîtes qui doivent se transformer et vraiment capitaliser sur la technologie, mais qui ne sont pas nées dans la technologie. C'est pour ça que je dis c'est intéressant, parce que un exemple d'une boîte que je connais, que je peux pas citer, pour laquelle ils ont travaillé, qui n'est pas dans le bouquin, qui est une boîte de plus de 200 000 employés aux États-Unis, où ils ont fait du conseil en transformation.
Tu peux donner un exemple, un concurrent français, enfin peut-être pas un concurrent, mais tu peux donner un truc qui puisse se représenter un petit peu.
Genre Lactalis, quoi, tu vois.
Ah oui, ouais, d'accord, ok.
Et là, tu vois, en fait, si le CEO de Lactalis, si le PDG de Lactalis, il est pas d'accord, ça marche pas, quoi.
C'est vrai, mais moi, tu vois, je trouve ça un peu hors sol, en fait. Enfin, pour moi, en gros, moi, une boîte comme L'Oréal, c'est une boîte qui a 100 ans, ils ont des actionnaires, ils ont un PNL, en fait... À un moment, investir sur le product management, c'est évident qu'il faut y aller. Enfin, tu vois, je veux dire, personne va te dire faut faire du cycle en V, personne va te dire faut pas aller voir tes utilisateurs. Donc pour moi, c'est plutôt le middle management, c'est plutôt, on va dire, les strates un peu inférieures au COMEX qui sont importants. Donc le DSI, c'est plus ça, à mon avis, c'est plus ça qu'il faut aller mettre l'effort. Je pense que évidemment, c'est un sponsoring du CEO, c'est très bien, mais ton CEO, il met pas la tête dans tes affaires courantes et en fait, c'est tellement loin de lui que ça se vit qu'à mon avis, personnellement, avec beaucoup d'humilité, parce que je suis pas à son niveau probablement, mais je sais pas si c'est le bon endroit où aller pousser. Évidemment, lui, oui, c'est plus vendeur de dire, je vends à des, enfin, les CEO de manière générale, ils ont plus d'argent, c'est une cible qui est peut-être plus intéressante financièrement pour lui. D'un point de vue marketing et
en fait son constat, c'est je pense qu'il a essayé des trucs qui n'ont pas fonctionné et en fait il disait que il y a des entreprises, ce qu'il a appris en gros en faisant ça pendant les 20 dernières années, c'est que effectivement des fois tu peux rentrer dans une mission sans rentrer par le haut, par l'exécutif. Et tu peux te faire financer ta mission et tu peux faire ta mission. Par contre, à un moment dans ta mission, tu vas atteindre un point où tu te rends compte que si tu n'as pas le buy-in du C-level en question ou du PDG, ça ne peut pas fonctionner. Et pour l'avoir déjà vécu dans certaines boîtes, c'est, en fait, je sais pas, enfin, là, on en parle comme ça, mais une transformation, ça coûte des millions et des millions et des millions de dollars. Donc, le CEO, à un moment, il est au courant, si tu veux. Et s'il n'y a pas ce niveau d'implication-là, ça peut pas fonctionner, quoi. C'est ça, lui, son apprentissage sur le sujet.
Toi, Thomas, c'est quoi ton expérience un peu chez BPI France par rapport à ça?
Bon, déjà, à vous écouter, effectivement, je pense que ces livres-là sont quand même une bien meilleure lecture que des manifestes sur les frameworks à échelle. Je pense que c'est une meilleure manière de...
Tu peux dire safe, hein, c'est pas grave. On est entre nous.
Non, je pense que safe dans certains contextes. Et d'ailleurs, le NSI sort dans safe, c'est très bien. Je pense que c'est plus compliqué quand ton problem space est vraiment large. Et que t'as des entrepreneurs, quand tu peux adresser à peu près tous les problèmes des entrepreneurs et que t'as un réseau commercial de 1500 chargés d'affaires, chargés d'opérations, chargés d'accompagnement qui sont répartis dans 50 implantations régionales dans toute la France. Je pense que là, le problème size, il est énorme. Et donc, il faut laisser de la liberté à la stratégie et à la recherche et permettre aux équipes d'apprendre en continu. Chose que parfois, le safe peut effectivement réduire. Mais bon, voilà, il y a d'autres vertus. Donc, bah écoute, pour en revenir à notre contexte, Anna, ouais, nous, notre sujet, c'est que à la base, on est un business physique. On est une banque, nos produits sont avant tout financiers. Il faut préciser quand on parle de produits qu'on parle de produits digitaux. Donc, on est au cœur d'une transformation qui est front to back, qui va des interfaces de nos clients, de nos collaborateurs et de nos partenaires jusque dans les couches les plus profondes de nos systèmes d'information avec notre DSI. Donc, tout l'enjeu, c'est voilà, de bien penser cette expérience bancaire qui a beaucoup de facettes, qui est omnicanal, qui est de plus en plus apaisé, pour pas produire des designs qui sont reflets de notre propre complexité, quoi.
Mais tu vois, Axel, moi, le truc, c'est que ce qui est compliqué, tu vois, dans un contexte comme celui-ci, c'est qu'en gros, t'as un business qui est pas digital historiquement, donc vraiment, voilà, le cœur de métier, donc c'est de faire de la relation client dans un monde bancaire. Hein, donc, et la difficulté, c'est pas que Nicolas Dufour, il soit pour faire du produit, c'est évident qu'il est pour faire du produit. Enfin, il est très intelligent, il a pas besoin qu'on lui explique ça. Tu vois, on a besoin d'avoir des gens qui vont voir
non, mais
le métier.
C'est plus compliqué que ça en vrai. En fait, mon point, c'est de dire. Les ressources sont finies. Les ressources sont pas, tu vois, il y a le pool de ressources, il est fini. Le monde fonctionne comme ça. Donc, à un moment, faut faire des choix. Et corrige-moi si je me trompe, Thomas. Si à un moment, Nicolas Dufour dit pas le digital, c'est important ou il faut absolument qu'on capitalise sur le digital, ton pool de ressources dans le digital, il réduit drastiquement parce qu'il y a d'autres choses à faire. Donc, s'il y a pas le buy-in de cet exécutif-là, tu peux pas faire ta transformation.
Ouais, bon, heureusement, c'est inscrit dans les 11 piliers stratégiques de l'entreprise. Faut capitaliser sur
c'est
business.
Ça que je dis.
Ça fait très à l'édit commandement.
Donc, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est plus ça, mon point, en fait. Enfin, en gros, pour le dire, voilà, t'as besoin, évidemment. Mais encore une fois, moi, je pense que n'importe quel, si le veulent, enfin, peut-être pas n'importe quel, mais la plupart, en fait, sont assez rationnels et sont conscients qu'il vaut mieux aller sur des approches produits. Mon point, c'est plus de dire, si tu veux transformer une organisation, moi, je veux dire, je l'ai vécu, hein, j'ai mis les mains dans le cambouis. Je suis allé discuter avec ces interlocuteurs métiers qui aiment pas l'agilité, qui aiment pas se remettre en question et tout. Là, bon, t'as beau avoir, non, mais le CEO, il a dit que c'était important, il a fait un discours pour dire que le digital c'était cool. Bon, en fait, ils sont là, mais en fait, je m'en fous. Enfin, tu vois, c'est pas mon problème. Moi, j'ai ma manière de bosser et c'est tout. Donc, après, que effectivement, t'aies besoin d'un buy-in ou t'aies besoin d'un sponsorship fort pour pouvoir aller développer, enfin, dégager des fonds pour pousser les transformations, peut-être. Mais en tout cas, pour moi, une transformation, ça se mène quand même, avec le middle management, en mettant les mains dans le cambouis et pas en allant voir le CEO pour faire des ateliers de brainstorming et design thinking.
Ah non, c'est pas ça. C'est purement un sujet de d'investissement. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, vous voyez tous ce truc qui dit une équipe produit coûte 1 million à l'année. Ce million-là, il faut bien qu'il vienne de quelque part, quoi. C'est ça, en fait, le truc.
Ouais, et puis dans un monde un peu bancaire, un peu régalien, c'est sûr que.
Ah oui.
Notamment quand tu vois des trucs comme ça, il faut t'as l'habitude de voir toute la journée des tableaux avec voilà combien ça coûte, voilà combien ça peut rapporter. Inverser un petit peu le raisonnement et se dire bon bah voilà, on est dans le monde du produit, On essaye d'être plus des entrepreneurs dans l'âme que des informaticiens. Et il y a beaucoup d'incertitudes devant nous. Mais ce dont on est à peu près sûr, c'est qu'on va essayer de répondre à tel objectif business, pour répondre à tel pilier. Et du coup, nous, on est responsable d'une stratégie produit pour atteindre ça. Il va falloir qu'on se fasse confiance et qu'on apprenne à travailler ensemble. Et petit à petit, qu'on augmente ce niveau de confiance. Ouais, bien sûr, ça prend du temps et il faut démontrer ça par le résultat. Il faut montrer les coulisses. Parfois, il faut aussi se tromper pour apprendre plus vite et rebondir. Donc, c'est un paradigme qui est un peu inversé finalement. On passe d'un sentiment de contrôle à un sentiment d'incertitude permanent.
Et c'est vrai que pour aller dans ton sens un peu axial, effectivement, t'as besoin aussi d'avoir un changement culturel fort qui passe par...
Oh là là, Victor va dans mon sens. Marquez ça dans votre calendrier. On enregistre le 15 mars, Victor va dans mon sens. Moi, je pense que c'est un moment à... Non, mais je rigole.
Historique.
C'est un moment historique. Et justement, en parlant de ressources, capitaliser sur les bonnes ressources et de ROI, c'est quoi un peu la vision de là où tu te trouves, Thomas, ta vision de... Justement, non seulement cette gestion des ressources dans ce contexte de transformation, mais un petit peu de manière plus large dans l'activité de BPI France, où d'ailleurs il y a deux branches bien distinctes, donc l'activité investissement et puis l'activité accompagnement des entrepreneurs, etc., banque en ligne. Qu'est-ce que tu vois de ça, de là où tu te trouves?
Écoute, déjà, on finance largement l'écosystème et on rentre au capital de belles boîtes, de belles fintech comme United, comme Lehman First, Anna. Comme Memo Bank qui rappelle souvent que ils sont une vraie banque. Alors, je crois que encore une fois, je suis pas investisseur, mais je trouve qu'il y a un truc intéressant à observer sur cette grande récession qui a touché évidemment les tech américaines, les fintech, les insurtech, les regtech, y compris françaises. Je regardais le baromètre France Fintech il y a quelques jours. L'année dernière, il y a eu à peu près 1 milliard de levées de fonds, donc en 2023. Et en fait, c'est 3 fois moins que l'année précédente. On est à peu près au même niveau qu'en 2020. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a moins de grosses levées, moins de séries C, moins de grands investisseurs internationaux. Pour autant, c'est plutôt sain, parce qu'en fait, on se rend compte que les fondamentaux, ils sont bons, que nos fintechs, elles ont des beaux ischios jambiers, elles ont les jambes solides. Et en fait, le challenge, c'est de réussir à faire plus avec moins. C'est un peu comme toutes les startups et aussi comme les corpos qui font de la transfo et qui font du produit. Ce qu'on observe, c'est que l'innovation, elle n'a jamais été aussi présente. Aujourd'hui, plus de 80% des opérations, c'est de l'amorçage, c'est du cible, donc c'est plutôt un très bon signe. Je crois que les entrepreneurs, ils sont aussi beaucoup plus attentifs à la maîtrise des coûts, des effectifs, des locaux, des fournisseurs, du marketing. On voit aussi des trésors qui sont de plus en plus solides, avec des excédents qui ont parfois 12, 18, 36 mois. Donc, nos fintechs, elles ont un vrai matelas de précaution, elles ont aussi plus facilement recours à la dette, elles permettent par exemple à leurs clients d'investir directement dans leur plateforme. On pense par exemple à des initiatives comme Caption Market qui permettent de rentrer au capital, enfin aux clients de rentrer au capital de ces fintechs. Et effectivement, il y a pas mal de fusions acquisitions qui vont faire d'un côté aux acteurs en tension un peu d'oxygène, de l'autre aux leaders une opportunité de consolidation à des prix raisonnables. Et j'ai regardé en 2023, il y a à peu près 25 transactions de M&A. C'est un peu moins que l'année précédente, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les 2/3 des opérations, c'est entre des fintechs. Donc ça témoigne d'une vraie consolidation du secteur avec des tendances fortes autour d'une finance plus ouverte, plus intégrée et plus verte. Voilà, donc pas plus tard que la semaine dernière, par exemple, Conto a annoncé le rachat de la plateforme de gestion financière et comptable qui s'appelle Regat. Pour simplifier les échanges entre les petites entreprises et leurs experts comptables.
Intéressant ce que tu dis, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup dit que c'était la crise, que c'était compliqué. Et, au final, c'est cool, je dirais, d'un côté de voir qu'il y a toujours des initiatives qui se lancent et que l'innovation, elle continue. D'ailleurs, c'est des conseils qu'on dit souvent en fait aux jeunes entrepreneurs, c'est de pas trop s'en faire avec la conjoncture et puis d'y aller dans tous les cas, parce qu'il n'y a jamais de vrai bon moment en fait. Hein. Et ouais, donc là, tu dis beaucoup sur les fintechs où ça va plutôt bien. Est-ce que tu as une vision un peu plus globale d'autres tech, d'autres boîtes de tech? Les amorçages dont tu parles, c'est toute industrie, hein, c'est pas uniquement côté fintech.
Ouais, après, moi, je zoome plus sur la partie fintech et je vais pas trop m'avancer sur les métiers de l'investissement, mais grosso modo, la tendance est bonne et là, on a pas grand.
On a vu plusieurs levées d'ailleurs en seed stage là depuis le début de l'année.
Et il y a l'innovation notamment qui est en plein boom. Là, on a publié notre rapport d'activité il y a quelques jours. Donc, on a arrêté 63 milliards dans l'économie l'année dernière. C'est 20% de plus que l'année précédente. Et surtout, ce que tu vois, c'est que ça a été complètement boosté par l'innovation. Donc, pas que du fonds propre, hein, aussi des aides, des subventions. Et en fait, on a fait x2 par rapport à l'année précédente. On a mis 10 milliards dans l'économie, et notamment dans le cadre du plan France 2030. Et notamment avec des sujets qui sont pas que par le prisme qu'on pense très parisien finalement, où on pense que BPI France c'est avant tout des startups, mais c'est aussi comment on va par exemple réindustrialiser la France, décarboner les entreprises.
Thomas, tu parlais tout à l'heure du rachat Compo Regate. Moi aussi je travaille dans la finance, dans la fintech, donc je m'intéresse toujours un peu à ces mouvements. T'avais une petite lecture intéressante que tu nous partageais avant, est-ce que tu peux un peu abonder dessus?
Ouais, et en fait, je me disais que finalement, il y a dans la transfo, on a souvent ce dilemme entre le make or buy. Et en fait, la fintech, c'est un peu pareil. Ponto, évidemment, on sait que c'est une licorne. Ils ont dit qu'ils devraient être rentables cette année. Ils ont fait leur dernière levée à 450 millions, je crois. Donc, ce genre d'acquisition, c'est pas anodin. C'est complètement stratégique pour eux quand on sait que toutes les entreprises vont devoir passer la facturation électronique. Donc dématérialiser les factures d'ici fin 2026, ça c'est un exemple, mais pour autant, je pense pas que c'est une fin en soi. Je pense pas que Conto a vocation à racheter toutes les fintechs du secteur, et au contraire, ils misent aussi beaucoup sur des partenariats comme ce qu'on voit avec leur financing hub. N'hésitez pas à regarder d'un point de vue produit, c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, ça permet aux clients depuis leur espace Conto de demander un financement chez, par exemple, October, Defacto, Silver, Carmen, dans une expérience qui est en fait complètement intégrée. Donc ça veut dire que ce monde autour de ce qu'on appelle l'open finance et de la finance intégrée, il permet comme ça d'avoir d'autres manières de distribuer ses services et surtout de construire ses produits. Je trouve que c'est hyper intéressant.
Ouais, ils sont en train de construire un vrai écosystème en fait.
Ce que les banques traditionnelles n'ont jamais vraiment réussi à faire, parce que c'est toujours des espèces de murailles de Chine entre elles. Ah, c'est cool ça, je connaissais pas du tout, mais j'aime beaucoup. Et oui, attends, il y a un truc que je voulais t'en parler, c'est aussi chez BPI, là, vous avez lancé le diagnostic IA, et je trouve ça très très cool, en fait, un diagnostic IA, pour ceux qui connaissent pas. C'est, en fait, tu vas faire un diag pour une boîte, alors qu'il y a certains critères de taille, je crois que c'est plus de 250 000 euros de CA. Et en fait, donc t'as 13 000 euros de diagnostic financé à 80% par la BPI, ça veut dire que ça te revient à 2006 et quelques, ce qui est pas beaucoup hein, pour 10 jours de quelqu'un qui maîtrise très bien l'IA. Je trouve ça cool et honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de boîtes qui ça fait passer à l'action là-dessus. Donc ça finance vraiment l'innovation et puis je trouve ça chouette quoi. L'IA c'est quand même un truc qui fait un peu rêver tout le monde, mais honnêtement y aller en pratique c'est pas facile et avec ce genre de dispositif ça te fait un peu rentrer dans l'eau du bain tranquillement même si elle est tiède et même si t'es pas sûr de vouloir rentrer dedans.
Ouais c'est ça. En fait ces diagnostics là c'est un truc qui est très ancré chez BPI parce que on a développé des offres autour de l'accompagnement. Souvent nos clients ils nous disent on savait pas que vous faisiez tout ça, on savait même pas que ça existait. On a un petit sujet de travail sur notre marketing de l'offre, c'est hyper intéressant. Et en fait, effectivement, en plus de faire le financement des aides, des subventions, de la garantie, du fonds propre, on a aussi des solutions d'accompagnement avec des formations, de la mise en réseau et du conseil qui permet comme ça d'aller aider les entrepreneurs sur des verticales qui sont clés, sur lesquelles parfois ils se sentent un peu seuls. Et d'ailleurs, tout ça, on le retrouve notamment dans ce qu'on appelle des accélérateurs chez nous. Des MBA, c'est un peu l'INSEP des entrepreneurs, où pendant 12 à 24 mois, des entrepreneurs se retrouvent entre eux pour avoir le meilleur de tout ça. Et forcément que la transition verte, par exemple, la cybersécurité ou l'IA prennent de plus en plus de place dans cet accompagnement qui va au-delà du financement des entreprises.
Non, mais très très cool. De toute façon, l'IA, c'est des sujets que tu suis pas mal. On a un truc, une rubrique qui est l'outil IA de la semaine. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus là-dessus?
Écoute, j'essaye de faire un peu de veille comme tout le monde. J'ai pas mal une newsletter de connaissance qui s'appelle AI Bull. Je voyais plusieurs choses intéressantes cette semaine. La première, c'est cette tendance à aller de plus en plus vers des agents qui vont nous permettre de faire plein de tâches à notre place, surtout celles qui sont à faible ajoutée, on l'espère. Donc il y a notamment cet outil qui s'appelle Hyperwrite, qui historiquement est un outil qui t'aide à faire du copywriting et qui en fait ils sont en train de faire un pivot où ils sont en train de devenir de plus en plus un assistant personnel pour t'aider à trouver des créneaux dans ton emploi du temps, à planifier des voyages, à trouver des profils LinkedIn ou à répondre à des commentaires Excel si dans vos débats sur le produit ou on aille beaucoup peut-être que ça.
Bah, je termine le call là, je vais dessus direct.
Voilà. Voilà. Bon, après, j'ai pas testé. Ce que j'en comprends, c'est que il y a toujours ces mêmes sujets aussi autour de des hallucinations. Tu vois, dans la banque, si on remplace des tâches à faible valeur ajoutée qui touchent au risque ou à la fraude par un agent, il a intérêt à être fiable à 100% parce que le coût d'une fraude, il peut être astronomique. Et de la même manière, il y a derrière toutes les externalités, que ce soit le coût pour l'entreprise, tu vois, si c'est là je voyais Keeperright, c'était autour de 20€ par mois pour 200 crédits et un crédit, ça fait une dizaine d'actions dans le navigateur. Donc je pense que tu as vite un coût financier et puis un coût aussi pour la planète. Et nous, évidemment, faut regarder ça puisqu'on est avant tout la banque du climat.
D'ailleurs, cette semaine, pour rebondir, j'ai vu le lancement de Cognition AI que vous avez dû suivre aussi, qui est le premier agent soft qui crée du code. Beaucoup mieux que n'importe quel autre modèle existant en ce moment. Ça, c'est assez flippant parce que il y a pas très longtemps, le PDG, dans une interview, le PDG de Nvidia avait dit ça sert à rien d'apprendre à coder. Et en fait, c'est marrant parce que en termes de timing, parce que juste après, il y a ce truc-là qui arrive et qui nous montre la puissance du software délégué à une IA, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez.
Toujours un peu le même avis, moi, sur ces trucs-là. C'est-à-dire que en fait, l'IA va pas remplacer complètement, mais elle va accélérer, elle va multiplier les compétences. Donc, en fait, si t'as des compétences faibles, elle va les enfin, voilà, en fait, bah, du coup, ça va pas les améliorer beaucoup. Et donc, potentiellement, tu vas être très, 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 très peu compétitif par rapport à des gens qui ont pas mal de compétences et pour lesquels ça va multiplier et donc décupler et démultiplier, augmenter largement. Donc, en fait, ça va polariser un petit peu les marchés du travail et certains avec plus de force, peut-être celui des développeurs. Mais ça supprimera pas non plus à 100% les développeurs. Enfin, je le pense vraiment pas. C'est juste qu'en revanche, effectivement, bah, du coup, les moins bons développeurs, ils auront beaucoup plus de mal et les très bons développeurs seront encore plus recherchés et seront payés encore plus cher.
Pour rebondir là-dessus, moi, je trouve que l'escalade, quand même, là, elle est assez dingue. Il y a des stats où GPT-4 était capable de traiter à peu près 2% des issues GitHub. Claude 2, qui, lui, était à peu près autour de 5%. Et là, Cognition IA, on est quasiment à 14%. Donc il y a quand même une échelle à chaque fois avec l'IA qui est assez vertigineuse. Pour autant, donc moi je pense que apprendre à coder, c'est aussi un truc qui structure l'esprit et qui fait quand même beaucoup de bien. Donc ça, je pense qu'on le remplacera pas. Par contre, tout ce qui peut nous permettre d'apprendre à mieux travailler avec ces technologies-là et à se concentrer sur justement les petits détails qui font la différence, ça je pense que ça changera pas.
Et ben sur ces sages mots de la fin, je vous dis merci à tous les trois, merci Victor, merci Thomas d'avoir été avec nous aujourd'hui, merci Anna. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Product Café.
Merci. Au revoir, salut, merci beaucoup. Baddy wanna call on me, push it. I can make the money move, my dog, push it. You should bet it all on me, push it. Pray the money fall on me, push it. Baddy wanna call on me, push it. I can make the money move, my dog, push it. You should bet it all on me, push it.